Ils étaient des centaines de milliers dans les rues de Paris, à Bruxelles, à Montréal et aussi 100 000 au moins ici à New York, pas loin du siège des Nations Unies. Ils ont chanté leur opposition à la guerre et nous étions là. Ils, ce sont ces nombreux manifestants qui ce samedi ont dit non à une attaque militaire américaine en Irak. Bonjour, cette semaine, Carrefour du Monde vous parvient donc de New York. Votre magazine vous propose son regard décalé sur une actualité internationale dominée par la guerre annoncée de l'Empire américain contre le peuple irakien. Une guerre dont ne veut pas une proportion importante du peuple américain en dépit de la propagande continuelle des médias dominants ici et ailleurs. Nous évoquerons ce sujet et bien d'autres lors de notre tour du monde en compagnie de nos correspondants. De cette guerre et des oppositions qu'elle déclenche, il sera également question dans la deuxième partie de cette émission. Rencontre avec Louis Balthazar, politologue enseignant à l'Université du Québec à Montréal. Carrefour du Monde, c'est tous les 15 jours sur CISM 89.3 FM à Montréal et à Bruxelles sur Radio Campus 107.2 FM et sur Radio Panique 105.4 FM. Vous pouvez également nous écouter tout le temps à l'adresse www.carrefourdumonde.org. Nos correspondants à travers le monde se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à l'écoute de cette édition. Nous sommes ensemble pour la prochaine demi-heure. Il est probable qu'en raison de la crise irakienne, le 14 février 2003 reste dans les annales du Conseil de sécurité des Nations Unies en raison de la défaite diplomatique infligée par une dizaine de pays à la toute-puissante Amérique. Le 14 février est déjà dans l'histoire et pour d'autres raisons. Le 14 février 1983, l'actuel Premier ministre israélien Ariel Sharon donnait sa démission du poste de ministre de la Défense. Une démission lourde de sens puisque Sharon venait d'être mise en cause par une commission d'État israélienne à la suite des massacres de 1982 dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila au Liban. 20 ans après, l'affaire rebondit avec la décision de la justice belge de rouvrir la voie à des poursuites contre Sharon, ce qui déclenche, Nicolas Willems, une crise diplomatique entre Israël et la Belgique.
Je vous avais déjà parlé la fois dernière de la fameuse loi dite de compétence universelle. Cette loi qui avait été adoptée en 1993 et qui avait été modifiée récemment permet de poursuivre en Belgique des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Le Royaume est le seul État au monde à avoir adopté cette législation pionnière. La compétence universelle avait déjà permis de juger certains responsables du génocide rwandais. Maintenant, la justice belge vient de relancer les poursuites contre le Premier ministre israélien Ariel Sharon, ce qui a directement provoqué une levée de boucliers de la part des autorités israéliennes. Ce qui signifie que les poursuites contre Sharon pourraient être relancées le jour où le Premier ministre israélien ne sera plus à la tête du pays, car sa fonction politique lui confère pour le moment une immunité totale. Les plaintes visant Sharon portent sur sa responsabilité dans les massacres des camps palestiniens de Sabra et Shatila au Liban en 1982. Ariel Sharon était à l'époque le ministre israélien de la Défense. Il avait laissé les milices chrétiennes libanaises massacrer les réfugiés palestiniens. Les avocats des rescapés de Sabra et Shatila se sont dit heureux de la décision belge. Du côté israélien, par contre, on n'apprécie pas beaucoup. Israël a directement rappelé son ambassadeur en Belgique pour consultation. Et puis, l'ambassadeur de Belgique en Israël a aussi été convoqué au ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem. L'ambassadeur belge a rencontré le chef de la diplomatie israélienne, Benjamin Netanyahou. Un Netanyahou qui a marqué un profond agacement face à toute cette affaire. Ce que les autorités israéliennes semblent avoir du mal à saisir, c'est que la décision de la Cour de cassation belge est une décision de justice. Et que cela ne plaise ou non à Israël, aucun politique ne peut interférer sur une décision de justice. Séparation des pouvoirs oblige. Outre Ariel Sharon, une trentaine d'autres dirigeants ou d'anciens dirigeants étrangers font l'objet de poursuites en Belgique au nom de la compétence universelle. Parmi eux figurent le leader cubain Fidel Castro, l'ancien président tchadien Hissène Habré et le chef de l'autorité palestinienne Yasser Arafat. Et justement, concernant cette plainte contre Arafat, Israël a largement apprécié la compétence universelle quand elle a porté plainte contre Arafat.
Par ailleurs, suite au veto de la Belgique, de la France et de l'Allemagne, l'OTAN est restée embourbée dans la crise liée aux préparatifs américains de guerre en Irak. Et puis Nicolas Willems, la Belgique a connu deux importantes manifestations contre les politiques économiques ultralibérales.
Dans ce contexte d'une possible guerre états-unienne en Irak, suite à la présentation devant le Conseil de sécurité de l'ONU du rapport MIFIG Miraisin des inspecteurs en désarmement en Irak, et dans la foulée des manifestations anti-guerre dans le monde entier, tout le monde a en tête ce probable conflit. Et les diplomaties du monde entier s'acharnent à faire passer leur point de vue, qu'ils soient bellicistes pro-américains ou favorables à une solution pacifique. La Belgique, pour le moment, se montre favorable à la poursuite des inspections en Irak. Bruxelles a même été à la tête du veto à l'OTAN contre une aide militaire à la Turquie en cas de conflit contre Bagdad. La Belgique a été suivie par la France et l'Allemagne. Ces trois pays considèrent que cette aide militaire à la Turquie montre alors que la guerre est inévitable, alors que les trois États pensent que d'autres solutions sont possibles. La position de la Belgique, de la France et de l'Allemagne a causé un profond agacement de Washington. Si la position belge est honorable, elle pourrait devenir rapidement inconfortable si les États-Unis décident finalement d'attaquer l'Irak. Mis à part l'ébullition au sein de l'OTAN, la Belgique a aussi été touchée par une marée noire. Il s'agit de la pollution du Tricolore, un navire échoué depuis le 14 décembre en mer du Nord. Plusieurs kilomètres de côte ont été fortement touchés et plus de 7000 oiseaux mazoutés ont été retrouvés. Et puis, plus de 15 000 personnes ont manifesté à Bruxelles récemment contre les négociations de l'Organisation mondiale du commerce sur la libéralisation des services. Enfin, autre manifestation, cette fois-ci à Louvain-la-Neuve. Les étudiants de l'UCL ont protesté contre la remise par l'université du titre de docteur honoris causa à Pascal Lamy, le commissaire européen du commerce. Lors de la manif, l'un des étudiants devait expliquer qu'il ne s'imposait pas à la personne de Lamy, mais à un symbole de l'ultralibéralisme sauvage. Bruxelles, Nicolas Willems, Carrefour du Monde.
Dans la crise irakienne, ce qu'il est convenu d'appeler le camp anti-guerre aux Nations Unies regroupe les défenseurs d'une solution exclusivement pacifique. C'est le cas de la Syrie et dans une moindre, celui de l'Allemagne. Mais il y a ceux qui soutiennent la légalité onusienne, même en cas de guerre, si celle-ci devait avoir lieu. C'est le cas du Canada. Jean Chrétien, de passage à Chicago vendredi dernier, l'a rappelé alors que le Conseil de sécurité était réuni ici à New York. Mais au Canada, toute la classe politique ne s'accorde pas forcément sur cette position. Revue d'actualité canadienne avec Marie-Hélène Monette à Montréal.
Le ministre des Affaires étrangères, Bill Graham, est des plus optimistes quant à la possibilité d'éviter la guerre. C'est ce qu'il annonçait lors de son passage à Montréal le 15 février dernier, journée pour la paix. Il a déclaré qu'il fallait attendre et laisser le temps aux inspecteurs à bien faire leur travail sans pour autant éviter la gravité de la situation, gardant l'approche par la force comme un moyen de dernier recours. De son côté, lors d'une réunion avec des gens du milieu des affaires politiques réunis vendredi dernier à Chicago, le premier ministre ne s'est pas gêné pour faire valoir l'importance de l'ONU à régler seul le conflit en Irak, ajoutant même que les États-Unis ont tout intérêt d'attendre l'appui des autres pays membres plutôt que d'agir seul. Quoi qu'il arrive, le Canada a fermement l'intention d'attendre les détails du rapport de l'ONU et les décisions qui en découleront avant toute réaction. Rappelons qu'un peu plus tôt la semaine dernière, l'annonce du ministre canadien de la Défense, John McCallum, concernant l'envoi d'un groupe de 25 officiers canadiens sur la base américaine au Qatar, avait suscité de vives réactions au cœur de la scène politique, étant donné que tout portait à croire à une participation anticipée. Précisons que le groupe d'officiers participait depuis déjà quelques mois à Tampa, en Floride, à la planification stratégique d'une éventuelle guerre en Irak. Suite à l'annonce, le parti de la droite, l'Alliance canadienne, s'est vu rejeter sa motion demandant le droit de vote sur toute décision. L'Alliance canadienne qui se dit pour l'appui de toute décision venant des Américains. D'un autre côté, une deuxième motion fut lancée cette fois-ci par le Bloc québécois qui proposait l'attente du second résultat des inspecteurs des Nations unies. Mais dans les deux cas, les deux motions furent rejetées par le premier ministre qui s'est toutefois défendu en précisant que la décision relevait du cabinet et non des communes. Le ministre de la Défense a pour sa part insisté sur le fait que l'envoi des officiers ne changeait aucunement la position du Canada, mais était plutôt une action nécessaire en raison du temps que demande toute planification. Au même moment, le vice-premier ministre John Manley confiait qu'à ce point-ci, il est important que le Canada maintienne de bonnes relations avec les voisins américains en optant pour une approche prisant un positionnement plus discret tout en restant fidèle à ses principes. En d'autres mots, le Canada peut refuser d'appuyer la position unilatérale des États-Unis sans pour autant le crier à voix haute. Marie-Hélène Monette à Montréal pour Carrefour du Monde.
En matière de renforcement des mesures de sécurité, il est difficile depuis septembre 2001 de faire mieux ou pire que les États-Unis. La Grande-Bretagne s'est pourtant lancée, pour ainsi dire, dans un exercice visant à prendre la première place aux Américains. Les médias britanniques n'en ont pas assez d'évoquer des menaces d'attaques terroristes plus imaginaires que réelles. Menaces à l'arme biologique, notamment dans les aéroports, entre autres lieux. Du coup, la sécurité à l'aéroport international d'Heathrow a été renforcée et les Britanniques se demandent de plus en plus, Hélène Mercier, si par les temps qui courent, s'offrir des vacances à l'étranger est encore une bonne idée.
Depuis le début de la semaine dernière, 450 soldats et des centaines de policiers ont été ajoutés à l'aéroport international d'Heathrow. Des patrouilles armées surveillent également les alentours de l'aéroport le plus achalandé au monde. Une attaque imminente est à craindre, nous répètent les dirigeants. Mais la possible fermeture de l'aéroport est une option que le secrétaire d'État David Blanquette a mise de côté, pour l'instant du moins. Ce serait dévastateur pour notre économie et ce serait laisser les terroristes gagner, nous a-t-il dit. Mais la Grande-Bretagne et le monde entier se demandent si cette campagne de peur ne serait pas plutôt une astuce politique, question de pouvoir attaquer l'Irak appuyé par une majorité de Britanniques. Il est surprenant en effet de voir ces hommes politiques qui ont l'habitude de se faire rassurants et de vouloir minimiser les craintes, mettre ainsi la population sur un tel pied d'alerte et ce, à tous les jours. Mais là-dessus, le parti de Tony Blair se veut sans équivoque. Ceci n'est pas un jeu, nous a-t-on dit. La menace est réelle et comparable à ce qui a massacré des milliers de personnes à New York. M. Blanquette a ajouté qu'il espérait voir les prochains jours se dérouler sans qu'aucun incident majeur ne survienne. La sécurité a également été renforcée aux aéroports de Manchester, Bristol, Leeds et en Écosse, à Glasgow et Édimbourg. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement britannique nous a annoncé qu'une toute nouvelle unité mobile, détecteur de gaz, virus et bactéries de toutes sortes, serait utilisée. Des détecteurs d'air étaient déjà en place dans le métro londonien, mais pour la première fois, des unités se déplaçant suivant les foules et les grands événements ont été créées. Près des attractions touristiques, donc des monuments, des gares centrales, ces unités de la grosseur d'un réfrigérateur moyen seront en mesure de détecter toute composante suspecte, et ce, en moins d'une heure. Si un agent biologique contagieux et dans l'air, une ceinture de sécurité sera alors mise en place, prévenant ainsi une plus grande contagion. Le gouvernement anglais a augmenté ses mesures de protection concernant les attaques biologiques depuis qu'un groupe de Nord-Africains est soupçonné de produire ces toxines mortelles dans la capitale anglaise. Et les armes utilisées par les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, auraient été développées en Irlande du Nord. Selon une brigade antiterroriste colombienne, les bombes et les façons de procéder des rebelles sud-américains ressemblent drôlement aux habitudes de l'IRA. Ils ont produit un dossier qui contient entre autres des photos des armes utilisées par les deux groupes, et ces photos mises côte à côte démontrent de façon claire l'origine commune des deux objets. Des membres de l'IRA sont soupçonnés d'avoir visité la jungle colombienne dans les années 90. En retour de cet entraînement spécial, les FARC auraient versé plusieurs millions de dollars au groupe armé de l'Irlande du Nord. Hélène Mercier pour Carrefour du Monde au Royaume-Uni.
On ne vous l'apprendra pas, le monde vit sous la menace d'une guerre en Irak. Les bruits de bottes se font toujours plus pressants en Irak. Et la Suisse, eh bien la Suisse, elle ne pense qu'au sport, ou presque, Laurent Dufour.
Presque, parce qu'elle a tout de même organisé ce week-end du 15 et 16 février une conférence humanitaire sur les conséquences possibles d'une guerre en Irak. Une conférence qui a réuni des acteurs gouvernementaux, des ONG, le CICR, mais pas l'Irak ni les États-Unis, histoire, dit-on, de ne pas donner une tournure trop politique à la conférence. Sinon, la Suisse pense sport. D'abord, elle s'apprête de nouveau à passer ses nuits devant le petit écran. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, c'est en effet le bateau suisse Alinghi qui défie le Team New Zealand dans la Coupe de l'América. Alors la voile, ce n'est en principe pas le sport favori des Suisses. Il y a bien des lacs, mais pas d'accès à la mer. Et la navigation sportive se résume en général à des régates lacustres. Quelques champions ont tout de même émergé de ces étendues d'eau et qui ont réalisé quelques grands succès en compétition maritime. On pense à Pierre Fellmann, Dominique Vabre ou encore le franco-suisse Laurent Bourgnon. Mais là, on ne parle pas de la même chose. La Coupe de l'América se déroule sur un plan d'eau fermé où les voiliers tournent autour de bouées. C'est donc une affaire de technologie et de météo et bien sûr d'argent. Alors là, le bateau suisse Alinghi est plutôt bien loti. Son grand patron s'appelle Ernesto Bertarelli, c'est l'une des plus grosses fortunes de Suisse. Il dirige une entreprise de biotechnologie et il a pu attirer quelques membres de l'équipage néo-zélandais qui avaient remporté la compétition lors de la dernière édition. Alors, depuis l'automne, son bateau Alinghi franchit victorieusement les différentes étapes de la compétition et ces jours débute donc la grande finale. Alinghi défie le détenteur de la Coupe de l'América, Team New Zealand. On l'a dit, les Suisses de plus en plus se passionnent pour ses exploits, mais ces deux dernières semaines, ils se sont aussi passionnés pour les championnats du monde de ski alpin qui se déroulaient en Suisse, à Saint-Moritz, dans les Grisons. De beaux championnats inondés de soleil, mais une moisson de médailles plutôt relativement modeste pour les skieurs locaux. Un peu à l'image de toute la saison, samedi et dimanche dernier fut néanmoins le plus beau week-end des mondiaux pour les Suisses, massés autour d'écrans de télévision dans les restaurants de montagne. Beaucoup de gens sont en effet allés skier eux-mêmes. Eh bien, les Suisses ont assisté aux exploits de Bruno Kernen et Corinne Rebellet, qui ont remporté des médailles dans l'épreuve reine de la descente. Soleil, belle neige et championnat du monde ont détourné les Suisses des urnes. Le 9 février, dimanche dernier, c'était jour de votation. La participation s'est élevée, si l'on peut dire, à 28%, tout proche du record négatif datant des années 70. Un résultat qualifié de déplorable pour la démocratie par les uns, mais relativisé par d'autres. D'une manière générale, la participation est plutôt en hausse lors des votations en Suisse. Mais il faut dire que les votations de ce week-end-là n'avaient rien de très attractif. On avait notamment un référendum lié à la loi sur l'assurance maladie lancé par un assureur. Un assureur qui était parti seul contre tous ses collègues et contre l'ensemble du monde politique. Autrement dit, un combat perdu d'avance, mais qui était tout de même soumis au vote de tout le pays. Et ce sont peut-être là les limites de la démocratie directe en Suisse. Lausanne-Laurent Dufour, Carrefour du Monde.
Dernière étape de nos revues d'actualité, la France. La France, au cours des 15 derniers jours, le climat s'est réchauffé, non pas à cause de la météo qui est toujours aussi hivernale, mais plutôt en raison d'un climat social et international tendu. Entre la fermeture de Metal Europe dans le Nord, la faillite de la deuxième compagnie aérienne nationale Air Libre, la Côte d'Ivoire et surtout les relations de plus en plus houleuses avec Washington, le gouvernement Raffarin a de quoi s'occuper jusqu'à l'arrivée des beaux jours. Il y a quand même de bonnes nouvelles pour les Français, notamment du côté de la recherche sur le sida. Pour la revue d'actualité hexagonale, on retrouve Faïd Swahili à Grenoble.
Ça chauffe entre Washington et Paris. Lors d'une réunion extraordinaire de l'OTAN à Bruxelles la semaine dernière, la Turquie, se sentant menacée par l'Irak en cas de conflit plus que probable, a demandé à ses alliés un renfort militaire préventif pour défendre le pays. Les États-Unis ont largement soutenu ce souhait, mais la Belgique, l'Allemagne et la France ont opposé leur veto. Le gouvernement français considère qu'il est encore possible d'éviter la guerre en Irak en augmentant le nombre d'inspecteurs chargés du désarmement de l'armée irakienne. Paris fait tout donc pour gagner du temps et attend le second rapport des inspecteurs de l'ONU qui sera dévoilé le 14 février à New York. Sur le fond, la France est prête à accéder aux demandes d'Ankara à condition que ces mesures ne tendent pas à faire croire que l'Alliance Atlantique est parée à suivre les yeux fermés les États-Unis en cas de conflit avec Bagdad. Bien évidemment, Washington a modérément apprécié. Le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld a qualifié ce veto de honte, d'inacceptable. La presse américaine, notamment le New York Post, en titrant « Nous nous sommes fait tuer pour vous », en référence à la Seconde Guerre mondiale, a entamé une violente campagne anti-française. De ce côté-ci de l'Atlantique, certains précisent que des soldats français ont participé à la guerre d'indépendance américaine, mais personne s'en souvient, c'était évidemment il y a plus de 200 ans. Et bien qu'ayant été libérés avec le concours de l'armée américaine, les Français pensent que ce n'est pas une raison suffisante pour se rallier sans condition derrière les États-Unis. Chacun a tout de même le droit de penser ce qu'il veut, et en ce qui concerne les Français, ils sont majoritairement opposés à une guerre en Irak, n'en déplaise à l'administration Bush. Enfin, pour finir, une note d'espoir. L'Agence nationale de recherche sur le sida a présenté mercredi dernier à Boston, lors d'un congrès sur les rétrovirus et les infections opportunistes, une étude qui a testé l'efficacité d'un vaccin thérapeutique contre l'infection au VIH. Cette thérapie a pour objectif de permettre aux patients séropositifs de cesser temporairement leur traitement antirétroviraux qui cause de nombreux effets secondaires très lourds. Tout est loin d'être parfait, mais les résultats sont probants. au cours de cette étude nommée Vaxiter, 61% des patients ont eu une réponse immunitaire contre le VIH après la vaccination, mais ils ont dû recommencer 6 semaines après, puis ont dû reprendre une multithérapie 9 semaines après la dernière injection. 20 semaines après le traitement, aucun effet indésirable n'apparaît. Cette avancée doit être suivie par la présentation d'un autre test de vaccination thérapeutique lors d'un projet congrès scientifique. Les associations de lutte contre le sida, comme AIDS ou ACT UP, sont ravies de cette découverte, mais elles craignent que celle-ci incite à des comportements sexuels dangereux. Vous l'avez bien compris, le préservatif a encore de beaux jours devant lui. Faïd Swahili, Grenoble, pour Carrefour du Monde.
Deuxième partie de cette édition de Carrefour du Monde, et retour à présent, comme je vous le disais tout à l'heure, sur cette crise irakienne dont on redoute qu'elle aboutira à une guerre en dépit des nombreuses protestations populaires. En tout cas, l'Amérique, qui se prépare à attaquer l'Irak de manière unilatérale au besoin, s'est brouillée au fil des dernières semaines avec certains de ses traditionnels alliés européens, la France, l'Allemagne et même la Belgique. Entre cette Europe et les États-Unis, y a-t-il une rupture? Quel en est son sens? Notre nouvelle collaboratrice, Michel Assaut, a interrogé le politologue Louis Balthazar.
Le contentieux irakien continue de diviser les membres de la communauté internationale, autant au sein du Conseil de sécurité de l'ONU que de l'OTAN. La France, l'Allemagne, la Belgique et la Russie ne semblent pas vouloir céder devant la pression américaine au sujet d'une intervention armée en Irak. Monsieur Louis Balthazar, professeur en sciences politiques et président de l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques, commente cette division.
Alors, nous en sommes là, à l'heure actuelle, à une rupture considérable entre la France et l'Allemagne et quelques autres pays européens d'une part et les États-Unis et d'autres pays européens d'autre part. C'est une rupture qui est tragique, qui accentue un vieux malentendu transatlantique qui existe depuis longtemps. Moi, j'aime à dire dans mes cours que les États-Unis sont fondés sur un rejet de l'Europe. Et cette vieille attitude d'incompréhension, de rejet, parfois de mépris vis-à-vis de l'Europe, ben malheureusement, elle est toujours bien vivante. Hein. Elle s'est manifestée récemment dans les propos de Monsieur Rumsfeld, qui sont tout à fait méprisants vis-à-vis de ce qu'il appelle la vieille Europe. Et puis, peut-être plus tragique encore, ce à quoi on assiste à l'heure actuelle, c'est à des divisions à l'intérieur de l'Europe même et qui affaiblissent l'Europe. Et ça est assez tragique. Il y a Monsieur Berlusconi qui semble se venger des Français et des Allemands qui n'ont pas été tendres vis-à-vis de sa candidature et de son gouvernement. Et il y a M. Aznar qui, semble-t-il, exprime aussi une tendance de droite et probablement des dettes vis-à-vis des États-Unis. Il y a les pays d'Europe centrale qui, bien sûr, préfèrent, oui, qui sont attirés sûrement par des récompenses américaines et qui préfèrent peut-être une domination très éloignée que la domination de l'Allemagne et de la France. Mais c'est grave pour l'avenir de l'Europe parce que ces divisions-là vont laisser des blessures. Également grave, la division à l'intérieur de l'OTAN, pour des raisons, moi, que je trouve justifiées. Les Français, les Allemands et les Belges ont opposé leur veto à une demande de la Turquie d'intervenir par solidarité pour protéger les Turcs dans le cas d'attaque de la part de l'Irak. Je comprends bien la position française, allemande et belge qui voit dans cette demande de la Turquie une sorte d'invitation à approuver la guerre, parce qu'on peut dire, écoutez, nous viendrons à votre escousse si vous êtes attaqués, mais si vous allez vous mettre dans la gueule du loup en approuvant une opération qui est inutile, on ne voit pas pourquoi on s'engagerait à vous soutenir, ce serait l'équivalent de soutenir l'intervention. Et puis ces pauvres Turcs, ben, on les comprend aussi de leur côté parce que les Américains leur promettent beaucoup, beaucoup d'argent, leur promettent de les appuyer, d'appuyer leur candidature à l'Union européenne, mais là aussi, encore une fois, le fossé entre l'Europe et les États-Unis, les autres Européens peuvent dire, mais qu'est-ce que les Américains ont à faire d'appuyer la candidature de la Turquie dans l'Union européenne? C'est quand même pas de leurs affaires, c'est les affaires de l'Europe regardent les Européens. Et il est certain que même si les Turcs reçoivent beaucoup d'argent des États-Unis dans cette opération, que ça ne facilitera pas leur candidature éventuelle. Alors, en tout ceci, indépendamment du conflit en Irak lui-même, il y a des choses pas très heureuses qui se produisent. Même s'il arrivait que le conflit n'ait pas lieu, ce que je souhaite encore, ces blessures et ces divisions demeureraient et pas pour le mieux, semble-t-il.
Selon M. Balthazar, l'attitude américaine actuelle s'explique par le sentiment de peur qui règne aux États-Unis depuis le 11 septembre, un sentiment selon lui excessif.
Il existe présentement aux États-Unis un climat de peur qui dépasse, je crois, tout ce qu'on a vu dans le passé. Cet événement du 11 septembre 2001 a été tellement spectaculaire, tellement médiatisé, qu'il a affecté profondément les Américains. Plusieurs ont dit par la suite, ah, la vie ne sera plus ce qu'elle était auparavant. À mon avis, il y a quelque chose de mythique là-dedans, parce que la menace terroriste, elle existait bien avant le 11 septembre 2001, et elle existe toujours, mais elle n'est pas aussi considérable, il faut bien l'avouer, puisqu'elle n'a rien donné depuis un an et demi maintenant, 18 mois, elle n'est pas aussi considérable qu'on la dépeignait à ce moment-là, bien qu'elle soit toujours là. Ensuite, il y a d'autres événements qui sont survenus, comme il en survient toujours aux États-Unis, l'histoire du tueur fou de Washington, la conflagration, en tout cas les événements associés aux lettres à l'anthrax à l'automne 2001. On peut même dire l'explosion de la navette Columbia. Tous événements qui ne sont pas reliés entre eux, qui ont créé beaucoup d'angoisse chez les Américains, mais qui n'ont aucun lien entre eux. Mais tout ceci donne l'impression, et on a souvent tendance à voir des associations, je pense que c'est bien humain, les Américains en particulier, qui, du temps de la guerre froide, voyaient le communisme partout, aujourd'hui ont tendance à voir le terrorisme partout. Et je crois qu'il y a quelque chose de mythique là-dedans, parce que finalement, ce qui menace davantage les Américains dans leur vie quotidienne, ce dont ils auraient plus raison d'avoir peur, c'est l'utilisation excessive de l'automobile. L'automobile fait beaucoup plus de morts à chaque année que quelque autre événement parmi ceux que j'ai mentionnés. Une autre chose dont ils ont raison d'avoir peur, c'est la liberté avec laquelle on s'achète des armes. Et il y a périodiquement des événements qui sont reliés à l'utilisation excessive des armes à feu, et puis on ne veut pas faire de loi là-dessus. Comme certains disent, les armes de destruction massive, elles ne sont pas en Irak, elles sont aux États-Unis, et c'est là la menace.
Voilà, Carrefour du Monde, c'est terminé. Cette édition du magazine de l'actualité internationale, vue de manière décalée, a été rendue possible avec le concours de nos correspondants à travers le monde. Au micro, Clarisse Sérignat. Vous pouvez écouter cette émission tous les 15 jours à Montréal sur CISM 89.3 FM et à Bruxelles sur Radio Campus 107.2 FM et sur Radio Panique 105.4 FM et aussi notre site internet au www.carrefourdumonde.org. Merci d'avoir été en notre compagnie. Bonne quinzaine à tous.